Une pensée, être façonné par Dieu. Alors on va lire dans la parole de Dieu des textes qui en parlent et que Dieu fasse que nous puissions, même avec les années de conversion, toujours rester malléables entre les mains du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin de changer. Il n'y a chez Dieu ni changement, ni ombre de variation. Amen. Mais il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin de changer. Nous, on a encore besoin de changer. Amen. La vraie repentance, ça se termine par un changement. Ça peut prendre un certain temps. Je ne dis pas que quelqu'un qui ne change pas tout de suite ne se repent pas vraiment. On peut vraiment se repentir. Et le changement arriver après. Mais ce qui certifie une repentance, c'est quand même le fruit digne de repentance. C'est-à-dire le changement. Amen. Et je crois que nous ne nous sommes pas repentis une seule fois pour toute notre vie. Mais que la repentance est un changement de mentalité. Métanoïa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes repentis la première fois devant Dieu, nous avons changé de mentalité. Nous avons compris que Dieu existait et que nous étions des pécheurs. Et qu'il nous faudrait tout au long de notre vie changer pour glorifier Dieu. C'est l'esprit de la repentance. Amen. Alors on va se rappeler nos origines. Genèse chapitre 2 verset 7. Nous effectuerons des lectures pour appuyer notre méditation. Parce qu'une prédication qui ne repose pas sur l'écriture, certainement, sera faible. Nous avons besoin de nous nourrir des saintes lettres. Amen. Genèse chapitre 2 verset 7. Il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Amen. Littéralement, « à Adam de à Adama ». Homme à Adam, de poussière à Adama. Voyez que dans le texte original, il y a un jeu de mots. Ce qui s'y rapproche le plus en français, c'est « homme » et « humus ». Il y a un peu cette similitude dans la racine « homme » et « humus ». Chouraki a traduit « le glaiseux » au sujet d'Adam. Et effectivement, littéralement, on peut dire « le terreux » ou « le glaiseux ». J'ai vérifié ce que c'est que la glaise. Toute argile n'est pas bonne à être façonnée. Mais pour la poterie, la glaise est une argile qui est bien utilisée. Ça veut donc dire que dès le départ, le créateur est un potier. Et la créature que nous sommes est une glaise. C'est bon de nous rappeler nos origines. Amen. L'Ecclésiaste nous dit que nous retournerons à la poussière. La mort nous rappelle notre origine aussi. Et parfois dans la vie, nous oublions d'où nous venons. Et parfois, même si le Seigneur nous bénit, nous oublions que nous ne sommes que de la glaise qui doit encore être façonnée. Parce que ça, nous allons lire dès à présent dans Jérémie chapitre 18. Il ne faut pas seulement dire, oui, nous avons été façonnés par le Créateur, et puis après, ben voilà, tout reste en l'état, plus rien ne bouge. Ah non, Jérémie chapitre 18, verset 1. La sanctification, quelque part, c'est le potier qui continue son ouvrage dans nos vies. Jérémie chapitre 18, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. C'est ce qui compte. C'est pas qu'on ait la vie telle qu'on la veut. Comprenez ? Le bon vase, c'est tel que le potier trouve bon de le faire. Amen. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Amen. Ici, Dieu est le bon potier tout au long de notre vie. Amen. Dieu est le bon potier tout au long de notre vie. Il y a deux vases dans ce texte. Le premier vase, c'est la vie avant notre conversion. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas réussi dans la main du potier. Nous avons vécu des années. Merci Seigneur, moi ça n'a été que 16 ans. Mais je vous assure qu'à 16 ans, j'avais déjà le sentiment que toute ma vie était gâchée. Le vase était raté. C'est pour cela que nous nous sommes convertis. Parce que le vase n'avait pas marché dans les mains du potier. Nous avions été une argile rebelle. Et ce vase ne réussissant pas, il a fallu faire un autre vase. L'homme nouveau. Dieu soit béni. Le deuxième vase, c'est possible dans la nouvelle alliance. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, c'est l'homme depuis notre conversion. C'est le deuxième vase. Amen. Parce que nous pourrions désespérer de nous-mêmes. Dans notre première vie, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, mais ça n'a pas marché. Le premier vase ne marchera jamais. Être chrétien, ce n'est pas améliorer le premier vase. Ce n'est pas s'améliorer. Ah, il y a du langage psychologique qui a atteint tout le monde et même nos assemblées. On dit, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur moi. Mais tu peux travailler le premier vase autant que tu veux, ça ne marchera jamais. Le premier vase, il faut le crucifier. C'est le vieil homme. Le premier vase, il ne s'améliorera jamais, même après 40 ans de vie chrétienne. Notre chair sera toujours la même. Peut-être même, elle s'empirera, parce que je crois en la corruption de la chair. Mais je crois au renouvellement de l'homme nouveau. Je crois au deuxième vase que Dieu recrée. Il est un potier qui nous a créés en Genèse et qui nous recrée en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Paul explique dans Romains en parlant de la vie en Adam et de la vie en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, on peut mal réagir. Dans le même chapitre, vous voulez bien lire avec moi les versets 11 et 12, s'il vous plaît. Jérémie 18, verset 11. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. » C'est dommage. Ils réagissent mal à l'œuvre que Dieu veut faire dans leur vie. Vous savez, nous n'aimons pas le changement. En tout cas, les changements que nous n'avons pas décidés. Peut-être sur votre lieu de travail, ça y est, il y a un nouveau chef. Et encore des nouvelles, on change encore tout. Et cela nous déstabilise dans notre confort professionnel. Je crois que Dieu nous modèle aussi sur nos lieux de travail. Amen. Et des fois, ce qu'on ne veut pas apprendre avec le Seigneur, Dieu nous le fait apprendre dans le monde. Avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on ne réagit pas toujours bien. Pas toujours bien. c'est une réaction charnelle. Nous suivrons les penchants de notre mauvais cœur. Alors, je vais vous poser une question. Avez-vous bon cœur? L'homme nouveau, oui. Le vieil homme, non. Notre cœur est toujours mauvais. Notre cœur est régénéré. C'est toujours Jérémie qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. » Et qui peut le connaître? Même soi-même, on ne connaît pas la profondeur de la méchanceté de notre cœur. Qui peut le connaître? Nous avons tous un mauvais cœur. Et si nous vivons selon la chair, ce sont les penchants de notre mauvais cœur qui s'obstineront pour que nous ne changions pas. Les changements font peur. Le changement déstabilise. Il y a des fois où le Seigneur nous change au point qu'on en perd ses repères. Et là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Comprenez bien, quand je parle de changement, je ne parle pas de changement dans l'Église. Hein. Je parle de changement dans nos vies, d'un travail de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois d'être tellement déstabilisé parce que le Seigneur, il vous fait passer par des épreuves et des moments difficiles où vous perdez les repères. À la limite, vous n'avez plus confiance en personne et il n'y a plus qu'une seule solution, c'est un pas après l'autre. Un jour à la fois. Et dans ces moments-là, Dieu veut nous changer, Dieu nous façonne. Nous pensons que Dieu nous façonne quand nous sommes tranquillement assis dans notre divan et que nous prions, « Seigneur, change-moi. » Ce que le Seigneur fait, parfois, est douloureux. Nous y viendrons tout à l'heure. Nous pouvons être tentés d'un mauvais choix, d'un mauvais changement. On peut le lire ensemble dans Matthieu chapitre 4, verset 3, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, verset 3. Je vous attends. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » En d'autres termes, change les choses pour ton profit. De quoi avons-nous le plus besoin? Que les choses changent ou que nous changions? C'est une tentation diabolique de nous susurrer à l'oreille « Améliore tes conditions là, améliore ta situation ». Bon, le Seigneur n'est pas resté tout le temps sans manger. Il serait mort. Il a pu manger, mais à la fin de son temps de jeûne et de prière. Mais quand c'est le diable qui lui proposait de se nourrir, il a refusé. Il ne faut pas confondre entre la bénédiction de Dieu, les bienfaits de Dieu qu'il nous faut accepter, et les propositions de facilité et de changement pour répondre à notre chair. Le diable propose à Jésus de changer sa situation, de changer des pierres en pain. Mais moi, je crois que nous n'avons pas besoin de changer les épreuves en facilité. Nous avons besoin d'abord que Dieu change nos vies, que Dieu change nos cœurs. Et la fin de l'épreuve arrivera comme la fin du jeûne de Jésus. Mais que ce soit Dieu qui nous conduise vers la fin de nos épreuves. Parce que si nous voulons aller trop vite et précipiter la fin d'une difficulté, nous n'apprendrons pas ce que Dieu voulait nous apprendre. Et son travail de façonnage ne sera pas terminé. Voulez-vous changer? Amen. Alors il y a un bon exemple, on lit dans Actes chapitre 17, Actes 17 versets 10 à 12. Actes 17 verset 10. Et vous savez, des fois on ne s'en rend pas compte, mais le Seigneur fait son œuvre quand c'est difficile. Il y a certainement des sportifs, j'ai été sportif, je vais essayer de me remettre un petit peu à l'exercice physique, ce n'est pas gagné, mais je sais bien qu'il y a des entraînements qui sont durs. On en bave. Et des fois, on rentre à la maison un peu découragé, on se dit « Waouh, c'était dur aujourd'hui ». Mais ce qui est bizarre, c'est que le jogging d'après, waouh, on a su faire 2 kilomètres de plus en étant moins fatigué. L'entraînement qui a précédé nous a aidés. Je crois que dans la vie chrétienne, Dieu nous fait passer par des moments dans lesquels on en bave. Mais sans qu'on s'en rende compte, Dieu nous fortifie. Et ensuite, on est plus fort. Alléluia. Je pense qu'il n'y a rien, on n'obtient rien sans difficulté, même dans la vie chrétienne. Alors, Actes chapitre 17, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Là, c'est un bon exemple de gens qui acceptent le changement dans leur vie. Ce sont des Juifs, attachés à la parole de Dieu. Mais le message de Jésus, c'est un grand changement quand même. Beaucoup de Juifs se sont achoppés à ce grand changement. Mais voilà des Béréens qui ont cette qualité d'être à la fois ouverts et prudents. C'est assez rare. Soit on est trop ouvert, soit on est trop méfiant. Mais il est dit des Béréens qui acceptèrent avec empressement l'enseignement de l'Évangile. Et qu'en même temps, ils vérifiaient dans l'Écriture si tout ce qu'on leur disait était exact. Quel équilibre ! Un empressement à recevoir, mais une prudence pour vérifier. Là, je crois que Dieu a pu faire son œuvre dans leur vie. Il faut rester malléable, continuer d'apprendre, continuer d'être bien disposé. L'Écriture nous dit de ces Béréens qu'ils avaient des sentiments plus nobles. En d'autres mots, ils étaient bien disposés. Bien disposés. Si nous voulons que Dieu fasse son œuvre parmi nous, il faut avoir un cœur bien disposé. Amen. Un cœur bien disposé pour le Seigneur. Comment Dieu nous façonne-t-il? Alors, ça ne sera pas exhaustif ce que je vais dire ce matin. J'étais obligé de trier dans ce qui m'est venu à l'esprit. Déjà, il nous façonne, j'en ai parlé quelque peu, par les difficultés. Et on va voir 3 passages dans lesquels 3 hommes étaient méconnaissables. On ne les reconnaissait plus. Lisons dans Genèse, chapitre 42, verset 8. Il s'agit de Joseph. Genèse 42, verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. En d'autres termes, Joseph était méconnaissable. Pourquoi ? Vous avez déjà vu certainement à la télévision le style égyptien. C'est pas trop le style juif. D'ailleurs, en Genèse 41, verset 14, pour comparaître devant Pharaon la première fois, il a dû être transformé, Joseph. On a coupé les cheveux, certainement la barbe, et on l'a habillé en égyptien. Joseph, on ne le reconnaissait pas. Il était méconnaissable. Il y a des épreuves qui nous changent. Ça a changé Joseph, l'Égypte. Au point qu'on ne le reconnaissait pas. Il est sorti de l'Égypte différent. Il avait reçu des promesses. Mais il était jeune. Et il a fallu qu'il soit humilié, qu'il soit changé, pour qu'en son temps, il soit le sauveur de ses frères. Mais vous savez, on ne peut pas être le sauveur des autres si on n'est pas d'abord changé. Parce que sinon, l'orgueil nous perd. Joseph était méconnaissable. On lise vite les pages de la Bible, mais on ne réalise pas ce que Joseph a dû vivre. Déraciné de son pays, en Égypte, une culture complètement différente. Il a même été marié avec une fille de prêtre égyptien. C'est spécial tout ce qui lui arrivait quand même. Très spécial. Mais dans tous ces moments-là, Dieu l'a changé intérieurement. Le pharaon l'a changé d'un point de vue vestimentaire, extérieur, mais Dieu l'a changé dans son cœur. Deuxième exemple, Job, chapitre 2, verset 12. Lui aussi était méconnaissable. Job, chapitre 2, verset 12. Ayant de loin porté les regards sur lui, donc sur Job, hein, Job 2, 12. Ayant de loin, c'est les amis de Job qui viennent pour le consoler, parce qu'ils ont appris tous ses malheurs. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et l'Écriture nous dit ensuite que pendant 7 jours, ils sont restés hébétés à ses côtés, sans rien dire. Tant il y a eu un choc. Un choc. Un choc de le voir défiguré par la maladie. Méconnaissable. Mais vous vous rendez compte? Il peut arriver que des chrétiens soient méconnaissables à cause de la maladie. Et nous pourrions être tentés comme les amis de Job. Certainement, tu as fait quelque chose de mal. Mais non! Dieu se glorifiait au travers de cette épreuve. Mais il faut aussi reconnaître que ça a changé Job. Ça l'a changé profondément. Profondément. Il dira, je n'avais que entendu parler de toi. Je n'avais que entendu parler de toi, c'est tout. Mais maintenant, je sais qui tu es, je te vois. J'ai fait une expérience avec toi. Je me suis rapproché de toi dans cette épreuve. Tu m'as changé, Seigneur. Alléluia. Troisième personnage méconnaissable, notre Seigneur. Ésaïe 52, verset 14. Ésaïe 52, verset 14. Voilà ce qui est dit. Alors, verset 13, d'abord. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Ça, c'est Jésus, souverainement élevé, assis à la droite du Père. Amen. Mais il y a le verset 14 aussi. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain, différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, etc. Christ à la croix a été défiguré par la souffrance. Son aspect a été changé. Il a été rendu comme méconnaissable. Alors, bien-aimé, si notre Sauveur est passé par là, vous pensez que ce n'est pas normal que nous y passions? Qu'est-ce que c'est que la croix? C'est pas seulement comme malheureusement beaucoup de nouveaux cantiques, c'est pour nous la croix. Seigneur, tu m'as aimé, je suis émerveillé que tu m'aimes. Mais la croix, ce n'est pas que ça. La croix, c'est il est mort pour que nous mourions avec lui. Et la croix dans la vie d'un chrétien, c'est pas seulement le témoignage de l'amour de Dieu, c'est un chemin de renoncement, de mort à nous-mêmes, d'aspect changé à cause de la croix. Là où la croix passe, les gens sont changés par elle. Même si sur cette croix, il y a des temps où la souffrance nous rend comme inhumains dans notre aspect. Mais son nom est béni. Le potier sait ce qu'il fait. Il façonne son vase. Amen. Le deuxième, pas le premier, le deuxième vase. Gloire à Dieu. Alors, deuxième élément, je ne dirai pas tout ce que j'ai pensé, mais Dieu nous change donc par les difficultés, par les épreuves, par la croix. Dieu nous change par les autres. On lit Proverbe 27, s'il vous plaît. Proverbe 27. Parce que Dieu nous change, nous sommes tous d'accord. Nous sommes même quelque part honorés que Dieu nous change. Par contre, si ce sont des autres qui s'en mêlent, là, ça nous plaît beaucoup moins. Proverbe 27. Alors, je vais lire dans une autre traduction qui est un peu différente. Proverbe 27, verset 17. Il est dit, « Le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. » Vous avez plutôt « La colère de l'homme excite l'autre homme », quelque chose comme ça. Hein, voilà. Pas le temps ce matin d'aller dans le détail, mais on peut vraiment voir les deux choses. C'est que de vivre ensemble nous révèle. La colère de l'homme excite l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur de celui qui se met en colère. Des fois, on dit « Ouais, mais c'est de sa faute, c'est lui qui me met en colère. » Ben non, tu te mets en colère comme lui, t'es comme lui. Les gens excitent nos péchés parce qu'on est comme eux. Et c'est dans ce sens-là que la traduction que j'ai prise va, et je répète cette traduction, le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Nous sommes améliorés en vivant avec les autres. Amen. Et le premier autre, c'est ma femme, c'est mon mari. Ce sont mes enfants, parfois mes enfants inconvertis, qui nous obligent à changer. Oui, Dieu nous change en vivant avec les autres. L'Église, elle est fondamentale. On ne peut pas vivre notre foi tout seul. Sauf si vous voulez faire ce que vous voulez. Si vous voulez être un vase comme le premier. Si vous voulez avoir la forme que vous voulez avoir. Ah oui, alors là, vivez tout seul. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Mais ça, c'est sûr. Mais l'une des façons dont le potier agit pour nous refaçonner, c'est d'utiliser les autres. Amen. Parce que nous, on pense qu'on est bien. Mais les autres voient la vérité sur nous. Non, ce n'est pas toujours de la faute de ton mari ou de ta femme. Et peut-être même que le Seigneur t'a donné ce mari ou cette femme pour être façonné. Amen. Et c'est une bonne chose que Dieu nous sanctifie, nous façonne. Au verset 6 de ce même proverbe, il est dit « Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » Les blessures d'un ami nous aident plus que les flatteries d'un ennemi. Amen. Et c'est désagréable. On ne va pas se le mentir. Hein. Parfois, ce que Dieu fait dans nos vies, c'est désagréable. ce qui lui est agréable nous est parfois désagréable. Désagréable à la chair. Mais néanmoins, nous sommes dans l'esprit très heureux que le Seigneur s'occupe de nous. Gloire à Dieu. Oui. Alors, par les difficultés, par les autres, je passe. Maintenant, à avoir vu comment Dieu nous change, on va voir, mais pourquoi être refaçonné par Dieu ? Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, je redis ce que je viens de vous partager. Non pas ce qui est bon selon nous, agréable à nous, mais ce qui est bon, agréable et parfait, objectivement, devant Dieu. Pourquoi être refaçonné par Dieu ? Parce que le monde nous a façonnés. Depuis qu'on est né, le monde nous a façonnés et il faut être dépollué, désintoxiqué. L'Écriture nous dit ici, ne vous conformez pas, ne vous moulez pas, ne vous modelez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le premier vase est tenace, sa forme est tenace. Nous avons tous été beaucoup influencés par le monde et nous le sommes encore beaucoup plus que nous ne le pensons, même nous chrétiens. Qu'est-ce qui nous influence le plus ? Ben c'est simple, si dans la même journée, vous êtes 2 heures devant la télé, 2 heures devant l'ordinateur, 2 heures avec votre portable, et que vous êtes 5 minutes à prier, obligatoirement, vous serez plus influencé par le monde. Parce que pour qu'on soit changé, transformé, il faut rencontrer le Seigneur. Amen. Mais si on se lave, mais qu'après on se salit encore et encore, c'est compliqué d'être purifié des souillures du monde. La vraie religion devant Dieu consiste à se purifier des souillures du monde. Amen. Se purifier des souillures du monde. Oui, pourquoi avons-nous besoin d'être refaçonnés ? Parce que la vie chrétienne est contraire à la vie actuelle du monde dans lequel nous sommes. Et c'est très compliqué pour nous de vivre dans le royaume de Dieu et non dans le monde. Et nous avons bien besoin que le potier nous dise « Non, ça, c'est avant. Ça, c'est du monde. Je ne veux pas ça dans ta vie. » Laisse-moi changer cette forme. Amen. Deuxième raison pour ressembler à Jésus. Amen. Pour être dépollué du monde et pour ressembler à Jésus. On lit le texte, Romains chapitre 9, verset 29, c'est pas loin. Romains chapitre 8, pardon, verset 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. Quel est le but de la vie chrétienne ? Gagner des âmes ? Non. De ressembler à Jésus. Alléluia. Alors, il faut faire la différence entre un clone et un frère. Ce texte nous dit « ressembler à Jésus afin qu'il soit le premier-né de plusieurs frères ». C'est important de tout lire. Parce que pendant des années, dans ma conception de la vie chrétienne, je me disais « on doit tous ressembler à Jésus ». Mais dans ma tête, c'était un petit peu comme si on était tous des clones après. Je me disais « si on se ressemble tous à Jésus, on va avoir tous la même idée, la même façon de vivre ». Mais c'était de l'uniformité, ça. C'est pas l'unité. J'aime beaucoup quand l'Écriture nous dit de ressembler à Jésus, quand elle continue en disant « afin qu'il soit l'aîné de plusieurs frères ». Et là, c'est une belle image. Dans une fratrie, dans une famille, les frères ont les mêmes parents, ont les mêmes gènes, et on voit bien parfois des mêmes mimiques, des mêmes façons de raisonner, il y a des ressemblances, mais chaque frère est différent. En même temps, chaque frère est différent. Et moi, je crois que dans l'Église, ressembler à Jésus, ça ne va pas gommer notre différence et notre identité. On a tous une identité différente. Dieu nous a créés comme nous sommes. Et il faut faire attention quand on parle de la mort à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous, on est des ennemis de nous-mêmes. Alors, on va devenir fou là. L'ennemi, c'est le péché. L'ennemi, c'est la chair. Mais ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas votre propre ennemi. Parce que Dieu vous a premièrement façonné en tant que créateur et vous a fait vous dans votre identité, votre caractère. Et en ressemblant à Jésus, nous serons tous unis et tous ressemblants et en même temps différents. Dans le ciel, alors c'est un autre sujet. Les hindous pensent qu'on va tous être confondus dans un espèce de fantôme en commun, le nirvana. Mais c'est pas biblique, ça. Je crois que dans le ciel, Moïse reste Moïse, Élie reste Élie, Jésus reste Jésus. Et vous resterez vous aussi avec un nom nouveau. Vous serez meilleur que maintenant, je vous rassure. Alléluia. Mais vous n'allez pas disparaître, parce que Dieu vous aime pour l'éternité. Ressembler à Jésus comme lui l'aîné de plusieurs frères. C'est riche ça, amen. C'est riche, cette pensée de la ressemblance en Jésus avec la différence de la fratrie. Merci Seigneur. Donc Dieu veut nous refaçonner pour ressembler à Jésus, mais aussi dans le respect de notre identité. Et je crois qu'il n'y a que en Jésus-Christ qu'on peut vraiment découvrir qui on est vraiment. En réalité, me semble-t-il. Et enfin, dernière raison du pourquoi d'être façonné, 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. Ah, j'aime bien que vous vérifiez quand on lit 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Une raison élémentaire peut-être, pourquoi être refaçonné? Pour être utile, pour être un vase utile. Amen. Ça sert à quoi d'être chrétien si on est inutile? Mais on ne va pas être utile dans l'Église si on ne change pas. Je vous assure, si vous et moi, nous ne changeons pas, nous n'allons pas nous faire du bien les uns les autres. Mais c'est seulement si nous sommes dans l'Esprit et le renouvellement de l'homme nouveau, si nous sommes dans ce refaçonnage de Dieu, qu'alors nous serons utiles et en bénédiction aux uns et aux autres. Amen. Et il n'y a que ceux qui acceptent d'être sur le tour et d'être encore et toujours toute leur vie façonnés qui seront en bénédiction à l'Église. Dès qu'on n'est plus sur le tour façonné, on est dans la chair et on ne va pas faire du bien à l'Église. C'est sûr et certain. Que le Seigneur nous fasse sa grâce de toujours être travaillé. Amen. Toujours être entre ses mains. Alors, vase d'honneur, utile, je préfère, puis utile, alors honneur. Le texte grec veut en premièrement dire quelque chose de valeur. Parce qu'il faut faire attention. Moi, je ne suis pas pasteur parce que c'est un honneur d'être pasteur. Ce n'est pas un honneur d'être pasteur. C'est une charge, une responsabilité. Et priez pour moi. Parce que ce n'est pas facile de servir le Seigneur d'une façon qui lui soit agréable. Amen. Et nous, nous n'avons aucun honneur particulier. Nous voulons seulement être utiles à notre maître. Amen. Et le servir. C'est ce qui compte. Alors, pour conclure, je vous rappelle un peu ce qu'on a partagé. Nous avons été façonnés dès l'origine par le créateur potier. Nous sommes allés rendre visite à la maison du potier avec Jérémie. Et nous avons compris que Dieu est en train de faire un deuxième vase avec nos vies qui autrefois étaient gâchées. Nous avons aussi discuté des mauvaises réactions qu'on peut avoir contre le changement. Nous avons vu des trois moyens, on n'en a vu que deux, que Dieu utilise pour nous façonner, les difficultés, les autres, et j'avais prévu de parler du ministère du Saint-Esprit, mais j'aurais été trop long. Nous avons aussi vu les raisons pour lesquelles Dieu nous change, pour nous dépolluer, pour ressembler à Jésus et pour être utile. Alors on va terminer par des vases brisés, ceux de Gédéon. Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7, verset 16. Juges 7, 16. Il divisa en trois corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, » Alors, c'est Juges 7, verset 18, ceux qui cherchent. « Moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel, et nous, c'est pour Jésus-Christ, pas pour Gédéon, mais pour l'Éternel et pour Gédéon, figure de Jésus-Christ. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche des flambeaux et de la main droite des trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Jésus-Christ. Amen. » Ou Gédéon. Alors, second dit cruche, je préfère d'autres versions qui disent vase, parce que je ne vais pas nous dire qu'on est des cruches quand même. On est plutôt des vases. Mais quelle belle victoire. Des fois, on se dit, mais pourquoi dans la Bible, il y a des drôles de façons de faire comme ça? Pourquoi Dieu a voulu cette façon de faire pour que Gédéon... Mais regardez l'image, ils arrivent. Et déjà, Gédéon dit, vous faites comme je vous dis. Hein. Il les prévient pas avant. Ah, si on pouvait tous obéir à Jésus-Christ comme ils ont obéi à Gédéon, ce serait formidable. Amen. Faites comme je vous dis. Alors, ils ont des torches allumées dans le vase. Donc, ils arrivent discrétos, dans la nuit. Et d'un coup, au même moment, ils brisent les vases. Et là, c'est la lumière. Et le bruit, les trompettes, d'une main, les torches allumées, de l'autre main, la trompette. Oh, quelle belle image. La lumière qui jaillit du brisement. La trompette. Les trompettes étaient faites pour se rappeler au souvenir de l'Éternel, la prière. Vaincre par la prière et une vie brisée qui brille dans le monde. Alléluia. Quelle belle image. Alors le Seigneur nous façonne. Des fois le Seigneur nous brise. Et il continue de nous façonner. Mais pourvu que nos vies brillent de la lumière de Jésus-Christ, ce sera la plus belle victoire semblable à celle de Gédéon. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frère Guéret.